Ojo ame yo ble tuye mwen shawaya. Ale piye leve ponde shawaya. Leve la mwa leve oswela.
Agatitino ojo ame yo ble tuye mwen shawaya.
Kude kayi woti oswela. Ma ke pet viya mwen ayaya.
Agatitino ojo ame yo ble tuye mwen shawaya.
Ale piye le tambuye shawaya. Mende mwen ale oswela.
Agatitino ojo ame yo ble tuye mwen shawaya.
Femmes, un rendez-vous intime où je reçois une invitée pour un face-à-face autour de son histoire, de son courage et de sa force. Des portraits de femmes, des parcours de vie inspirants pour se comprendre et avancer ensemble. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau volet de l'Entre-Femmes. Alors aujourd'hui dans l'Entre-Femmes, je reçois Victor avec un K, un prénom qu'il s'est choisi, un prénom qui dit quelque chose de lui, de son parcours, de son identité. Mais avant, Victor était perçu comme Léa, une petite fille douce, sensible, discrète, presque en retrait, une enfant facile en apparence, sage, attentive, qui ne faisait pas de bruit mais qui déjà ressentait le monde avec une intensité particulière. Avec les années, les mots sont arrivés pour tenter de comprendre ce qui se jouait à l'intérieur. Troubles du spectre autistique, bipolarité, anxiété, dépression, des diagnostics qui éclairent mais qui ne résument jamais une personne. Et puis, il y a eu une autre prise de conscience, plus intime encore, celle de son identité de genre. Victor est un homme qui avança à son rythme, sans forcément cocher toutes les cases attendues, sans pour forcément suivre un parcours typique. Son histoire, c'est celle d'un chemin parfois chaotique, souvent douloureux, mais aussi profondément lucide et courageux. un chemin où il apprend jour après jour à se comprendre, à s'accepter et à trouver sa place. Bonjour Victor, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout merci pour ta confiance.
Bonjour.
Alors quand tu repenses à l'enfant que tu étais, comment tu te décrirais ?
Je pense que j'étais un enfant plutôt créatif, avec plein d'imagination, je dessinais beaucoup. Je faisais des vêtements avec des lingettes que j'avais laissées sécher pour mes Barbies. Enfin, je créais énormément.
Je me permets aujourd'hui de dire à nos auditeurs, on voit que tu es encore créatif, que tu as des cheveux colorés, un look hyper esthétique, moderne, hyper créatif.
Oui, j'essaye en fait de me rapprocher de ce que je veux être, indépendamment de mon genre, mais il y a des personnes que j'admire beaucoup et je pense qu'on est tous comme ça et on veut leur ressembler. Donc
c'est des personnes qui t'influencent un peu dans...
Des personnes, des artistes, des œuvres, tout influence tout le monde, donc tout m'influence en soi. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à me trouver au final.
Donc t'es assez portée sur l'art en fait.
Oui, j'adore ça.
Tu étais une petite fille très douce, très sage. Est-ce que c'est comme ça que toi tu te percevais aussi ?
Alors ça, je pourrais pas dire d'où... Ah, pas non plus, hein. Non, mais je pense que du coup, comme beaucoup d'enfants, la plupart, quand c'est des gens de l'extérieur, on essaye plus de faire passer une petite façade d'enfant sage et tout, pour que derrière, on se fasse complimenter. Après, je restais beaucoup dans mon coin, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire, donc peut-être que ça vient aussi de là, cette vision de moi enfant... qui posait pas de problème, qui parlait pas trop, mais c'est parce que je suis introvertie depuis toujours.
Est-ce que tu avais déjà ce sentiment d'être un peu à part, sans forcément savoir pourquoi ?
Ouais, déjà depuis un certain moment déjà. Quand je jouais dans la cour avec mes camarades, je voyais bien qu'on n'imaginait pas les mêmes choses, que c'était différent, que j'étais vraiment clairement à leurs yeux l'enfant hyper bizarre en fait. J'ai vraiment du mal à me faire des amis. L'école, c'est cruel un peu.
C'est vrai, oui.
Ouais, j'avais vraiment du mal à me faire des amis ou à me faire accepter.
Tes intérêts portés sur autre chose que la plupart des autres enfants ?
Pas vraiment en soi, parce que j'aimais jouer, j'aimais dessiner, j'aimais faire des jeux de société comme tous les enfants. C'est juste que j'étais dans mon comportement un peu trop bizarre pour eux, j'imagine.
On peut parler de toi d'un être très sensible ?
Ouais, quand même. Je suis toujours très sensible.
Une grande sensibilité, ça ressemblait à quoi concrètement dans ton quotidien ?
Par exemple, même encore aujourd'hui, je ne peux pas sortir sans casque. Parce que en fait, le bruit de dehors me perturbe. Je ne pourrais pas expliquer ce sentiment, mais me met pas bien du tout. Et en fait, j'ai vraiment besoin d'un son sur lequel me concentrer pour pouvoir en fait gérer tout le reste. Parce que quand je n'ai pas de casque, ou quand je me retrouve sans avoir une personne à côté de moi sur qui me concentrer, je me retrouve à devoir tout entendre. Et en fait, je n'ai pas l'impression que mon cerveau il sache où donner sa priorité, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours besoin d'avoir un casque ou une personne à côté de moi à qui parler.
Et quand tu parles du son, tu parles de musique ?
Oui, de musique. Surtout les musiques répétitives dans leur rythme ou avec vraiment une répétition hyper marquée.
Tu peux me donner un exemple ?
Par exemple, il y a Doppelganger de Creepy Nuts, où le rythme se répète énormément et je trouve ça incroyablement satisfaisant et rassurant.
À quel moment arrive le diagnostic du trouble du spectre autistique ?
Il arrive à 16 ans sur la demande de mon psychiatre.
Assez tard ?
Assez tard, en effet. Les adultes qui sont aujourd'hui les parents de ma génération n'ont pas grandi du coup avec l'importance de la santé mentale dans leur vie. C'est compliqué en fait, parce qu'on leur a toujours mis des préjugés. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ont plus peur en fait d'aller voir un médecin plutôt que de gérer ça tout seul, simplement. Donc oui, c'est arrivé tard, parce que du coup on m'a pris en charge tard. Parce que ma mère, elle a dû être prise en charge, elle, avant moi, pour que du coup, moi, on aille voir pour moi. Mais c'est déjà qu'il fallait faire du coup le travail pour elle-même, alors pour moi, son enfant, ça a dû être dur, quoi.
Parce que ta mère représente aussi un TSA ?
Non, ma mère est bipolaire, comme moi.
D'accord. Vous avez quand même des soupçons sur ton TSA ?
J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, c'était tellement, tellement chaotique que déjà, il n'y a personne qui avait posé de diagnostic ou de pré-diagnostic, mais on ne savait pas du tout ce que j'avais. Vraiment, c'était terrible parce que il se passait tellement de choses dans ma tête, dans ma vie, que le diagnostic il a mis un petit peu de temps à se faire. J'ai vu des psychologues pendant 2 ans, toutes les semaines quasiment, à la maison des adolescents, pour qu'on me redirige vers une psychiatre à la maison des adolescents, pour qu'ensuite j'aille vers un psychiatre en libéral. C'était un long parcours, avec beaucoup d'essais, pas trop de résultats, et puis ensuite oui, il y a eu des résultats.
Mais finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette démarche ?
C'est pas moi, c'est quand j'ai parlé à mon psychiatre, finalement c'est lui qui m'a redirigée vers un neuropsy pour faire tout le test et tout. Non, ça venait pas du tout de moi parce que je ne me doutais absolument pas d'avoir un trouble autistique. Parce que déjà il est assez léger et puis toute ma vie j'ai appris à m'adapter. Alors ça a mis énormément de temps. Du coup en général on essaie de s'adapter au mieux à chaque fois.
Alors quand tu entends ce diagnostic pour la première fois, qu'est-ce que ça te fait ?
Honnêtement, pas grand chose. Je suis juste là et je me dis, ça explique certaines petites choses en soi. Je sais que c'est pas que ça, qu'il n'y a pas que ça. Que c'est pas ça en fait qui me rend ma vie plus difficile en vrai. Enfin, ça me rend plus sensible, ça change des choses évidemment. Mais c'est pas mon problème principal en fait.
D'accord. Entre guillemets. Ça met quand même des mots sur des choses que tu ressentais depuis longtemps, quoi.
Alors, des mots sur des choses que je ressentais depuis longtemps. Encore une fois, c'est un rapport assez compliqué par rapport à ça. C'est-à-dire que je dirais pas que ça a tout expliqué. Et je dis pas que ça m'a rassurée. Parce que c'est pas le cas. C'est juste... au moins, c'est dit. Au moins, quand on me demande, je sais quoi dire. Au moins, je parais plus crédible. Maintenant, on sait, en fait. C'est tout. En fait, c'est surtout par rapport aux autres que j'ai été rassurée, pas par rapport à moi-même. Parce que c'était dur de dire que je vais pas bien, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et quand on me demande pourquoi, je dis, je sais pas. Et qu'on me répond, je peux pas savoir à ta place.
Au moins, ceci explique cela.
Voilà, c'est ça. Je dis, j'ai un trouble autistique, et je me dis, ok.
Tu évoques donc des sensibilités sensorielles, notamment dans les bruits. Quel type de situation concrètement peut être difficile pour toi aujourd'hui ?
Pour tout le monde, c'est difficile comme situation, mais le bus ou le métro l'été, c'est un enfer. Déjà, il y a le toucher, qui je déteste quand les gens me touchent, en fait, que je connais pas. Et surtout, quand il fait chaud, en général, on souffle. Et quand il y a plein de monde, on souffle un peu sur les gens. Et en fait, ressentir l'air de quelqu'un d'autre sur ma peau, je sais pas, ça m'énerve en fait. Je déteste ça, par exemple. Voilà.
Donc le métro, c'est des situations qui peuvent être récurrentes dans ton quotidien en plus.
Oui.
Et j'imagine que tu as appris à gérer plus ou moins.
J'ai appris à ne rien exprimer par rapport à ça, visuellement. Mais dans mon cœur, il est possible que je me mette à maudire des gens.
Ça va, c'est pas trop méchant.
C'est pas trop méchant.
Est-ce que ça impacte aussi ta manière d'entrer en relation avec les autres ?
Maintenant que je sais, et que je sais comment je fonctionne, oui, mais en bien. Parce que du coup, maintenant, je peux communiquer sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je peux, ce que je peux pas. J'ai pas de problème à dire à quelqu'un, je peux pas, ça me met mal à l'aise, je sais poser mes limites. En fait, le fait de savoir tout ça et d'avoir appris du coup à gérer tout ça, ça me permet juste de ne pas dépasser mes limites comme avant, de pouvoir répondre si j'ai besoin de répondre, de ne pas avoir peur en fait, simplement.
On te diagnostique avec un trouble du spectre autistique, mais on évoque aussi chez toi de la schizophrénie. Alors, comment tu vis cette annonce ?
C'était pas vraiment un diagnostic, c'était seulement une hypothèse. Du coup, vu que c'était qu'une hypothèse, j'ai pas ressenti grand chose en soi.
T'attendais de voir.
Voilà, je voulais pas m'avancer.
Mais ça t'a pas fait plus peur que ça ?
Non, pas spécialement. En fait, à ce moment-là, j'étais du coup en clinique psychiatrique. C'était le chaos le plus total. Franchement, c'était un peu le cadet de mes soucis. Je m'en fichais de ces hypothèses. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait.
Alors, finalement, on s'oriente vers un trouble bipolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers le trouble bipolaire ?
C'est à force d'observation. En tout cas, c'est passé comme ça. J'ai eu plusieurs séances avec mon psychiatre, il y a eu différentes hypothèses émises. Et au final, on est allé sur ça parce que je correspondais aux symptômes. Je réagissais bien aux médicaments par rapport, j'imagine. Mais globalement, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de truc déclencheur. C'est vraiment juste c'est arrivé à force d'observation.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la bipolarité ?
Alors, la bipolarité, déjà, il y a différentes phases, mais en gros, c'est passer de l'état dépressif à l'état maniaque, euphorique. évidemment, il y a plusieurs stades.
L'épisode maniaque, on rappelle que c'est l'euphorie. Donc ça peut aller, par exemple, par des grosses dépenses, se sentir invincible, se mettre en danger probablement, ne plus dormir. Puis à l'inverse, les phases dépressives, c'est des pensées suicidaires. On est en état de dépression, tout simplement. Oui. Donc, toi, comment ça se révèle, ces phases ?
Les phases maniaques, j'ai encore du mal à les prévoir, entre guillemets, parce que du coup, il y a des indices à chaque fois quand je tombe. Mais par exemple, mes états dépressifs, mes périodes dépressives arrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup en période prémenstruelle. C'est terrible, mais je dors énormément. Je peux dormir, à un moment donné, dans ma vie, j'ai dormi 16 heures par nuit. C'est énorme, parce que du coup, je reste réveillée seulement 8 heures. Par exemple, je dors énormément, je mange beaucoup et j'ai beaucoup de compulsions. C'est beaucoup de choses, je prends pas soin de moi.
Tu te sens triste ?
Oui, je me sens très triste. J'ai moins vraiment d'idées suicidaires et de ruminements sur ce sujet-là. Mais évidemment, j'ai des petites visions de moi-même en train de me faire du mal, des pulsions en fait. Bon, ça n'arrive pas, mais... Voilà, globalement commencer, et mes options maniaques, je sais pas encore comment les détecter en soi, mais je sais que par exemple, je vais me mettre en danger financièrement.
Tu dors ?
Oui, je dors. Mes médicaments me font dormir, donc oui, je vais me sentir heureux, je vais me sentir...
Super fort,
je vais avoir une extrême confiance en moi. Mais ouais, le plus gros danger de chez moi quand je suis maniaque, c'est vraiment je dépense en fait, je m'en fiche.
Quelle était ta plus grosse dépense, si ça te dérange pas de nous en parler ?
Ma plus grosse dépense, j'ai pas de grosse dépense en soi, genre j'achète un énorme objet. J'achète 50 petits objets qui coûtent 2 à 3 euros.
Est-ce que t'arrives à repérer quand une phase arrive ?
Phase dépressive, oui, parce que du coup ça arrive beaucoup en période prémenstruelle. En général, quand je commence à rentrer en phase dépressive, je sais que j'aurai mes règles. Et par contre, les phases maniaques, j'ai vraiment du mal à les voir venir.
Est-ce que tu as des phases d'anxiété ?
Oui,
oui. Et ça apparaît surtout peut-être pendant les phases dépressives ?
Oui, beaucoup. J'ai peut-être en général, quand je rentre en phase maniaque, je suis souvent en colère. Mais c'est le seul indice que j'ai pour l'instant, que j'ai pas... Mais ouais, je fais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de ce genre de choses quand je suis en phase dépressive, oui.
Tu t'es scarifiée plus jeune, qu'est-ce que ces gestes venaient traduire ?
Ça rendait réelle la souffrance que je ressentais mentalement, que je ne pouvais pas expliquer, qu'on ne m'a pas expliqué. Ça la rendait concrète, je pouvais m'appuyer dessus en fait.
C'était une manière d'exprimer quelque chose que tu n'arrivais pas à dire autrement ?
En quelque sorte, j'imagine, oui. C'est juste vraiment pour que je situe en fait la douleur quelque part, quelque chose de réel, parce que j'étais complètement perdue, personne autour de moi me comprenait, moi-même je me comprenais pas, j'avais pas de réponse, j'avais rien. Je ressentais tellement de souffrance et tellement de douleur que je voulais rendre cette douleur réelle, parce que pour moi c'était pas réel.
Tu as fait également 2 tentatives de suicide avec le recul, comment tu regardes ces moments aujourd'hui ?
C'est assez compliqué comme question, parce que... Je suis hyper détachée émotionnellement de ce moment-là.
Comme si c'était pas toi ?
Comme si c'était arrivé, comme si... Je suis très détachée dans le sens où je ressens pas de tristesse, je ressens pas de colère, je ressens pas de peur, je ressens rien en fait envers...
T'es ok avec ses choix ?
Je suis pas ok non plus, parce que mourir c'est pas si cool quoi. Mais je sais pas, je suis très... Peut-être que c'est du déni en soi, mais... Je suis neutre en fait, je ressens pas grand chose par rapport à ce moment. En fait, c'est arrivé. Et puis c'est tout quoi.
Heureusement qu'elles n'ont pas abouti à ton décès.
C'est clair.
Il y a un déclic, quelque chose qui t'a aidé à tenir ?
Non. Franchement, à cette époque-là.
Pas de déclic ?
Non, pas du tout. J'ai été hospitalisée direct et c'est une bonne chose. Parce que c'est grâce à ça aujourd'hui que, surtout que je suis vivant. Parce que je n'avais rien. En fait, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de rencontre à ce moment-là tout pile qui m'a fait dire « Ah, je veux vivre ». Juste, je me suis fait hospitaliser. Ça commence à aller mieux.
Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que toi, tu penses qu'une fille, le fait que t'étais une fille, ça te rendait plus fragile, plus sensible ?
Non. petit garçon, je suis la même personne depuis le début. Franchement, il n'y a pas de sensibilité plus liée à l'un qu'à l'autre, en tout cas pour moi. Et au contraire, je trouve que bah, du coup, les garçons sont plus sensibles parce qu'on leur a expliqué toute leur vie qu'il faut exprimer ce qu'ils ressentent, alors que les femmes, bah, elles, on leur a toujours demandé de cacher ce qu'elles ressentent pour pas trop déborder. Donc franchement, pour moi, ça n'a absolument rien changé. Je trouve que les garçons sont plus sensibles que les femmes.
C'est marrant ce que tu dis, parce que justement, on a l'impression, et on dit souvent, que les filles sont plus sensibles, plus émotives, plus pleurnichards, plus hystériques.
Mais en fait, c'est parce que on les prend pas au sérieux. Une femme va aller voir le médecin, il va lui arriver au moins une fois dans sa vie qu'on lui dise « c'est dans votre tête, c'est les hormones, c'est rien ». Alors qu'un homme, on va directement le prendre en charge. Une femme, je me souviens de cette histoire, une femme avait appelé parce qu'elle avait mal au cœur. Il lui arrivait quelque chose de pas bien dans son corps, on ne l'a pas du tout prise au sérieux. Elle a fait une crise cardiaque, elle en est morte aujourd'hui. On ne prend pas la douleur des femmes au sérieux parce que la douleur, étant donné que ça fait partie de leur vie par rapport aux règles et l'accouchement, ça me dépite.
À t'entendre comme ça, on pourrait quand même se dire que ton choix de devenir un homme, c'est justement pour être un peu prise au sérieux à travers tes mots.
Non.
M-A-U-X.
Parce que déjà, dans la plus grande honnêteté, je m'en fiche qu'on me prenne au sérieux ou pas. En tous les cas, si une personne a décidé de ne pas me prendre au sérieux, peu importe que je sois un homme, une femme, il ne me prendra pas au sérieux dans tous les cas, parce que peu importe quel est mon genre, je suis qui je suis. Donc s'il a décidé ou elle a décidé de ne pas me prendre au sérieux, bah, au final, c'est son problème. Mais ce n'est pas un choix que j'ai fait. Je suis un homme parce que je me sens homme. Je ne deviens pas homme parce que je décide d'être un homme.
C'est bien dit. Tes parents, ils sont partis vivre à La Réunion. Et toi, tu es restée en métropole. Comment tu as vécu cette séparation ?
C'était un peu compliqué avec mes parents sur la fin, avant qu'ils partent. Du coup, vraiment, ça nous a fait du bien. On s'appelle souvent, on se parle beaucoup, mais le fait d'être loin, parce que ça m'a fait grandir, j'ai pu développer mes propres compétences tout seul. En plus, j'étais vraiment tout seul, donc j'ai dû tout apprendre tout seul en soi. Ça m'a fait du bien et ça leur a fait du bien aussi.
Avec quel âge quand ils sont partis ?
J'allais avoir 19 ans.
Ah oui, c'est assez jeune de se retrouver seul.
Oui, mais finalement, c'est passé aujourd'hui, ça va.
Pourquoi tu as choisi de rester finalement ?
J'avais honnêtement la flemme de refaire toute ma vie dans une île, du coup, à La Réunion, où j'allais pas reprendre mes études, où j'allais travailler, j'allais pas avoir d'amis, j'allais pas sortir. J'allais même pas refaire ma vie avec de nouvelles personnes. Donc, moi, je suis très bien ici, j'ai ma vie ici, et voilà.
Tu t'es sentie abandonnée ou plutôt indépendant ?
Indépendant, c'est moi qui ai décidé de rester.
Est-ce que ça a renforcé certaines difficultés ou au contraire, ça t'a aidé à te construire ?
Ça m'a beaucoup aidé à me construire. Surtout que bah, j'étais entourée uniquement de gens qui me comprennent, mes amis. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que bah, personne ne me dead name, personne ne me genre mal. Vraiment, être purement dans un environnement où bah, du coup, je suis entourée que de gens, pas qui respectent, parce que je dirais pas que mes parents ne respectent pas, juste qu'ils ne se trompent pas en fait, simplement. Mmh. Ça fait du bien.
Cette distance, elle a permis de vous retrouver quelque part.
Oui, en quelque sorte, parce que le fait de ne pas vivre avec eux, bah, leur présence ne m'était pas imposée tous les jours, et ma présence n'était pas imposée tous les jours. Donc quand on se parle, c'est parce qu'on veut se parler. Et ça, c'est cool.
Donc c'est une relation choisie.
Voilà.
Et puis, en parallèle de tout ça, il y a une autre dimension de ton identité qui a commencé à émerger, la découverte de ton identité de genre. À quel moment tu comprends que tu es un garçon ?
Alors, je suis passée par quelques étapes avant de me rendre compte que vraiment je suis un garçon. Bah, du coup, je suis passée de ces genres, donc à me genrer en L, avec en fille, quoi. Ensuite, je me suis demandé si j'étais pas non-binaire, c'est-à-dire plutôt genderfluid. Donc non-binaire, c'est du coup ne pas vouloir et ne pas correspondre en fait au genre imposé par la société.
Et le pronom, c'est Yel.
Yel ou il, en fait, c'est la personne qui choisit, simplement. Il y a des personnes non-binaires qui choisissent il, elle, Yel, en fait, ça dépend. J'ai commencé à me dire genderfluid avec des